France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Maman,
il n'y a pas d'argent. Le kilo de citron est à 3000 livres. Il était à 500. Tout est cher, très très cher.
Et les hommes n'ont même plus de quoi payer parce qu'il n'y a pas de boulot. Tout ça, c'est la faute des politiciens. Ils nous ont anéantis.
L'État libanais est très mal géré. Il a une dette énorme. La classe politique est très corrompue. Les Libanais se sont appauvris de façon très forte.
On va où? À la guerre? À la famine? La pauvreté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène à la guerre.
Le Liban a échappé à une crise sanitaire d'ampleur. Le pays de 6 millions d'habitants n'a officiellement recensé que 27 décès dus au nouveau coronavirus. Mais le confinement imposé pour endiguer l'épidémie n'a fait qu'aggraver la crise économique et financière. Un naufrage économique pire que celui de la Grèce en 2008. En octobre dernier, la colère avait poussé dans les rues des hommes et des femmes de tous âges, issus de toutes les classes sociales. Ces manifestations massives contre la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence, ont entraîné la démission de Saad Hariri et la formation d'un nouveau gouvernement au début d'année. Mais pour l'instant, pas de miracle. Le Liban, lourdement endetté, a annoncé en mars le premier défaut de paiement de son histoire. Le gouvernement négocie en ce moment une aide d'environ 11 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Un plan de relance de l'économie a été adopté fin avril. Et le Premier ministre, Hassan Diab, s'est engagé hier à freiner la dégringolade de la monnaie nationale et à subventionner les produits de base. Car la population subit de plein fouet l'inflation et la faillite du système bancaire. Plus de la moitié des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Le Liban au bord du gouffre, c'est un reportage signé Aurélien Colli. Invité de ce grand reportage, Karim Bitar, spécialiste du Moyen-Orient, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et directeur de l'Institut de Sciences Politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Beyrouth, où vous vous trouvez avec notre correspondant au Liban, Aurélien Colli. Aurélien, vous avez suivi le mouvement de contestation depuis ses débuts en octobre. Alors, le coronavirus a pris la première place dans les journaux ces derniers temps. Où en est ce mouvement aujourd'hui?
Bonjour Aurélie, oui, pour l'instant, le coronavirus a été la priorité, mais ce mouvement est peut-être en train de revenir. Il y a eu quelques rassemblements ces dernières semaines qui ont été organisés, notamment devant le siège de la Banque du Liban ou d'Électricité du Liban, qui sont des organes qui incarnent un petit peu, si vous voulez, les dérives de l'État libanais. Il y a eu aussi quelques cortèges en voiture pour aller directement au domicile de responsables politiques, mais il n'y avait que quelques manifestants. En revanche, demain, pour la première fois, il y a un vrai appel à manifester à Beyrouth. C'est le premier appel qui est lancé après la crise sanitaire du coronavirus. Ça va donc avoir valeur de test sur cette mobilisation.
Alors, pour mesurer les effets de la crise économique sur le quotidien des Libanais, vous nous emmenez pour commencer sur un marché.
Je suis à Tripoli, la deuxième ville du Liban après Beyrouth. Tripoli, la grande ville sunnite du nord. Je suis en train de me rapprocher du souk de Bab el Tebaneh. C'est un marché populaire avec ses marchands de fruits et légumes. Et puis surtout, c'est un lieu qui n'a jamais fermé pendant le confinement en avril et en mars. Et aujourd'hui encore, même si le déconfinement a commencé, eh bien ni les vendeurs ni les clients ne portent le masque, ce qui est pourtant obligatoire au Liban. Et la distanciation sociale n'existe pas dans ces ruelles étroites. Alors il faut dire aussi franchement que la priorité ici, ce n'est pas le coronavirus, c'est la crise et la faim.
Quand le corona est arrivé, on est resté ouvert parce qu'il faut bien manger, boire et vivre, et parce que l'État ne te donne rien en contrepartie. Il te dit reste chez toi, mais il ne te donne rien. Moi, je vais pas rester chez moi sans manger.
Il n'y a pas d'argent. Ceux qui veulent 2 kilos, ils prennent un demi-kilo. Le kilo de citron est à 3000 livres, il était à 500. Tout est cher, très très cher.
Ça, je l'ai payé 12 000, ces haricots et ces oignons. 12 000. Ça ne suffit même pas pour le déjeuner d'une famille. Et il n'y a pas de travail pour les hommes. Personne ne s'occupe de nous à part le bon Dieu. Pour un plat, je ne prends que la moitié des ingrédients. Je ne peux pas tout acheter. Tout est cher. Et les hommes n'ont même plus de quoi payer parce qu'il n'y a pas de boulot. Tout ça, c'est la faute des politiciens. Ils nous ont anéantis.
On va où ? À la guerre ? À la famine ? La pauvreté, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mène à la guerre.
Sur ces mots en forme d'avertissement, de mise en garde même d'un marchand de légumes, je suis en train de quitter le souk pour aller vers le centre-ville de Tripoli. J'ai rendez-vous avec un orthodontiste d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Rami Finj. Et depuis un an, depuis le début de la crise en septembre, il distribue des repas aux plus démunis avec une petite équipe de bénévoles de Tripoli.
Salam alaikum, bonjour.
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 Ah bon, bonjour. Bonjour. En fait, c'est un ancien magasin qui a été reconverti, donc c'est un petit magasin, une échoppe. Au rez-de-chaussée, vous avez mis deux brûleurs à gaz, des énormes marmites. Et là, qu'est-ce que vous cuisinez alors ?
Des courgettes avec du laban, avec de la fiente farcie.
Combien de repas vous servez par jour ?
Entre 600 à 800 plats. Pour beaucoup de familles, on part chez eux, dans leur maison, pour leur servir les repas chauds chez eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus préparer le repas chaud chez eux. Donc, ils n'ont pas des bouteilles de gaz, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de l'électricité, ils n'ont rien du tout. Donc, on essaye de leur donner pour survivre.
Depuis que vous servez ces repas, ou depuis en tout cas que la crise a vraiment commencé il y a un an, est-ce que vous avez senti la pauvreté ou la paupérisation gagner de plus en plus de gens ici à Tripoli ?
Tout à fait. Les gens qui étaient de la classe moyenne sont devenus pauvres. Les pauvres, ils sont devenus très très pauvres. Et là, ils ne peuvent plus gagner leur vie, absolument pas. Même ce matin, moi je suis orthodontiste, je travaille depuis 25 ans. J'ai croisé une collègue ce matin. Elle m'a dit, écoute, je ne suis pas rendu compte d'un jour à l'autre que je me réveille le matin. Je suis pauvre, je suis complètement pauvre. Je n'ai plus un seul sou. C'est une dentiste qui a fait un bac plus 6, plus 7 et là, elle est pauvre, complètement pauvre.
Vous-même, vous avez longtemps exercé, vous êtes très diplômé et aujourd'hui, vous êtes au chômage.
Tout à fait. Je suis un bac plus 9. J'ai fait mes études à Montpellier, j'ai terminé. Et depuis 25 ans que j'exerce, j'ai une polyclinique qui travaillait à merveille. Et maintenant, les gens, même de la classe moyenne, ne peuvent plus continuer leur traitement médical. Ils sont complètement démunis. Donc, même pour acheter nos produits, pour faire des soins médicaux, on ne peut plus les acheter parce que la dévaluation de la livre, elle a fait que le coût du traitement est devenu incroyable.
Donc aujourd'hui, votre petite clinique qui fonctionnait, elle est quasiment en train de faire faillite parce que les gens ne viennent plus ou ils n'ont plus de quoi payer ?
Tout à fait, tout à fait. Et les fonctionnaires, j'ai deux secrétaires et une femme de ménage qui sont depuis 2 mois au chômage parce que je ne peux pas leur payer leur salaire. Je fais les soins d'urgence minimum, je ferme et je fuis parce que je suis incapable de continuer. Tous mes collègues sont dans la même situation. On va arriver à une situation sociale qui ressemble à un apocalypse.
Fin avril, quand le déconfinement a commencé, il y a eu 3 jours d'émeutes à Tripoli, 3 jours d'affrontements avec les forces de l'ordre. Alors aujourd'hui, le calme est revenu, mais la colère couve dans cette ville sunnite où la crise frappe de plein fouet depuis septembre. Elle frappe aussi ailleurs, là où on l'attend moins. Je suis maintenant à Beyrouth, dans le quartier d'Ashrafieh. C'est le quartier des chrétiens. Ici, pas de pauvreté apparente. À 5 minutes dans une direction, il y a les coins les plus prisés, les plus chers de la capitale. Mais à 5 minutes dans l'autre direction, il y a aussi un supermarché caritatif.
Bonjour.
Bonjour monsieur, vous allez bien ?
Oui, je m'appelle Aurélien, Radio France.
Vous voulez entrer ?
On peut ?
Oui, oui. Ouais. Allô ?
Je m'appelle Maya Brahimcha, je suis la fondatrice de Beit al-Baraka. C'est une association qui s'occupait à la base des retraités uniquement. En 2018, on a commencé avec 50 familles. En 2019, on était à 328 familles. Aujourd'hui, nous avons dépassé de loin les 1012 familles, 1013 familles qui viennent tous les jours au supermarché s'approvisionner gratuitement avec un système de points. Des fois, je suis là, assise derrière ce bureau. Je n'arrive pas à reconnaître les gens qui viennent donner de l'argent, des gens qui viennent demander de l'aide. Et c'est dramatique. C'est la même pauvreté que vous allez retrouver dans les villes où l'infrastructure déjà est pauvre. Là, vous êtes dans le cœur de la capitale, mais ça ne change rien. Et d'ailleurs, il y a deux personnes qui sont là avec qui vous pourrez parler. Vous allez voir le niveau d'éducation que c'est. Le monsieur était fleuriste, la dame infirmière. Et c'est des gens qui, s'ils ne viennent pas chez nous, n'ont absolument rien à manger. Rien. Je ne peux pas vous dire que le nombre a quadruplé. Il y a plus de mots, en fait. On n'a rien qu'en liste d'attente sur Internet, les gens qui nous ont envoyé des mails de demandes d'aide, on est à plus de 6000 demandes. Ça, c'est les sacs qu'on leur donne, jusqu'à 50 kilos. Et ça, c'est les cartes. Alors, chacun a une carte avec 50 points. Et ces 50 points, ils peuvent les dépenser comme ils veulent. Ils peuvent venir tous les jours prendre une chose, comme ils peuvent venir une fois et prendre, vider les 50 points.
Je m'appelle Joseph Jobrahil Habouri. J'ai 74 ans. Je ne peux pas manger. Chaque mois, je viens prendre les nourritures ou l'aïdi. Ça fait 3 mois à peu près.
Vous avez peur pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois?
Oui, bien sûr.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous jette dehors, qu'on soit expulsé.
Je vous remercie.
Vous êtes les bienvenus.
Je m'appelle Victorine Jeannette Fiani. J'étais une infirmière diplômée, 72 ans maintenant.
Est-ce que vous avez senti que la vie était de plus en plus difficile?
Sûrement, parce que j'ai dépensé tout mon argent. Il y a téléphone, loyer, il y a électricité, il y a l'eau. Je n'ai plus de l'argent. Même pour le loyer, n'importe quoi, c'est mon frère qui s'occupe de moi.
Et vous êtes obligée de venir dans ce supermarché ici, oui, pour vous nourrir tous les mois?
Oui.
Est-ce que vous auriez imaginé, avant, arriver à ce niveau?
Non, jamais. Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? On prie, toujours on prie pour que Dieu nous aide.
Merci.
Merci, Eli.
Bye, Vicky.
Bye.
Alors, Vicky, je vais te donner tes galettes.
Merci.
Attends-moi, là. Turini. Turini.
Ok.
Vous vous appelez comment, madame, vous?
Aïda.
Aïda, vous êtes l'assistante sociale, c'est ça?
Oui, je m'occupe des gens âgés, je vais les visiter chez eux. C'est très difficile. Parfois, vous n'arrivez plus à croire ce que vous voyez. Des gens qui vivaient à un niveau, qui ont vendu leur voiture, qui ont vendu leur portable pour pouvoir manger. Des gens qui ont des enfants pour pouvoir manger. Il y a le loyer, l'électricité et le générateur.
C'est-à-dire le groupe électrogène,
voilà,
qui va produire de l'électricité,
voilà,
quand il y a des coupures du système national.
Voilà. Il y a l'eau.
Alors l'eau, c'est pareil que l'électricité.
Voilà.
Il faut aussi faire appel à des camions-citernes,
voilà,
à partir du mois de juin, non, jusqu'au mois de septembre. Donc ça, c'est des services de base, voilà, que l'État devrait prendre à sa charge, qui ne prend pas correctement à sa charge. Et donc à chaque fois, tout est doublé. Il y a des opérateurs privés pour, voilà, les groupes électrogènes, voilà, pour les camions-citernes, voilà, d'eau, etc. Alors en plus de ça, donc, il y a l'augmentation générale des prix.
Le lait, le riz, la farine, les pâtes, c'est pas des trucs de luxe, vous voyez. Toutes ces matières de base ont beaucoup augmenté. D'habitude, ils retiraient de l'argent. Maintenant, ils ne peuvent plus retirer. Ils ont droit à retirer, par exemple, $200 par mois.
Parce que l'argent est bloqué par les banques.
Bloqué par les banques.
Donc ça, c'est l'autre aspect de la crise. C'est la crise bancaire.
Ni sécurité sociale, ni mutuelle. Ils peuvent pas. Les gens ne peuvent pas payer une mutuelle. C'est tellement cher ici. Et même pas de retraite. Comment ils vont vivre?
Et même quand ils ont un peu d'argent à la banque,
c'est bloqué, ils ne peuvent pas le prendre.
Scène de la vie courante à Beyrouth depuis le mois de septembre. Une trentaine de Libanais sont en train de faire la queue devant une banque, d'attendre. La porte est fermée, il y a juste un employé qui a passé la tête pour essayer de les faire patienter.
La situation, c'est que nous avons de l'argent à la banque et qu'on ne peut pas le retirer. Et ils n'ouvrent même pas la porte. Tous les jours, c'est comme ça. Mon numéro, c'est le 41 et là, c'est le numéro 9 qui vient d'entrer. Tous les jours, je viens ici et on est debout devant la banque et on attend. Ce n'est pas bon, ils vont nous mener à l'effondrement. On va peut-être finir par voler. Il y a des jours que je passe à attendre que quelqu'un m'aide. C'est trop pour nous. C'est plus comme avant. Moi, je suis en colère contre tout le monde, tous les hommes politiques et les banques. Quand on est venu déposer notre argent, ils nous ont dit « Soyez les bienvenus ». Ils nous ont offert du café et là, on attend. Et à la fin, ils nous disent « Rentrez chez vous ».
Je viens une fois par semaine pour retirer. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible. Je devrais attendre 3 ou 4 heures. J'ai une bonne somme, j'ai 500 000 dollars. C'est beaucoup, mais j'ai travaillé toute ma vie, ça. C'est toute l'économie. Avec la crise maintenant, ils nous donnent des sommes limitées, très limitées. Et en libanais aussi, ils ne nous donnent pas ça en dollars.
En fait, il n'y a plus de dollars disponibles. Même si votre compte est en dollars, on ne vous donne que de la livre libanaise.
Il n'y a plus de dollars, voilà. Ils ne donnent pas de dollars. Maintenant, c'est tout en libanais, en monnaie locale.
Pour comprendre ce qui s'est passé au Liban en quelques mois, comment le pays a sombré dans la crise, je suis maintenant au siège du magazine économique Le Commerce du Levant. Je suis précisément en train de monter au troisième étage où la rédactrice en chef du journal m'attend. Elle doit tout m'expliquer.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va?
Là, j'avoue du marketing.
Aurélien Colli, j'ai rendez-vous avec Sarah. Voilà.
Ah, d'accord.
Mais juste j'envoie ce truc et tu briefes comment il peut faire, enfin un truc qui soit pas trop inintéressant au possible.
Je m'appelle Sahal Atta, je suis la rédactrice en chef du Commerce du Levant, un mensuel économique libanais.
Question simple pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les Libanais aujourd'hui font la queue devant les banques commerciales au Liban?
Pour comprendre, il faut déjà savoir que l'économie libanaise est totalement dollarisée, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec deux monnaies, le dollar et la livre libanaise. Une grande partie des dépôts sont en dollars, la dette libanaise, une partie de la dette publique libanaise est en dollars. Et on a pu vivre ainsi avec un taux de change fixe grâce aux flux de capitaux, aux entrées de capitaux. Les entrées de capitaux provenaient essentiellement de la diaspora, de ces nombreux Libanais qui habitent à l'étranger et qui envoient leur argent au Liban. Mais il y a un moment où les gens ont perdu confiance dans la capacité de l'État libanais à gérer le pays. Et à partir de fin 2016, les entrées de capitaux ont commencé à se tarir, donc il y avait moins de dollars. Et la crise de liquidité est vraiment apparue en août. Et les banques ont commencé à imposer des restrictions sur les retraits en dollars, qui fait qu'on peut plus transférer de l'argent facilement aujourd'hui en dehors du Liban. On peut pas sortir son argent. Et c'est problématique pour les importateurs, pour les déposants, pour tout le monde en fait. Il y a une crise de liquidité en dollars qui est très aiguë.
Parce que l'économie libanaise a une spécificité aussi, elle dépend à 90% quasiment des importations qui sont essentiellement payées ou payables en dollars.
C'est un pays, oui, qui importe à peu près 80% de ses besoins, ne serait-ce que ses besoins alimentaires. On produit très peu. C'était une économie qui était tournée vers les services, le tourisme, le secteur financier. Très peu de production. Donc oui, la crise de dollars se traduit par une dévaluation très importante de la livre sur le marché parallèle et donc un renchérissement très important des importations et un fort taux d'inflation.
La raison aussi pour laquelle les banques ont dû restreindre le dollar, c'est parce que elles détiennent en réalité aussi, via la Banque centrale, une partie très importante de la dette publique.
En fait, le système a consisté pendant des années à attirer les dollars à des taux d'intérêt très élevés et les placer dans la dette publique libanaise. Donc en gros, tous les dollars qui sont entrés dans le système libanais ont été utilisés pour financer l'État libanais. Évidemment, l'État libanais est très mal géré, il a une dette énorme, un des ratios les plus élevés au monde par rapport à son PIB. L'État a dû faire défaut sur sa dette en devise. Donc aujourd'hui, le système financier est totalement grippé et les Libanais n'arrivent plus à accéder à leurs dépôts aux banques parce que ces dépôts ont été placés dans de la dette publique, prêtés à l'État qui lui-même a géré le pays de façon catastrophique. C'est un État qui est construit sur un modèle confessionnel et très clientéliste. La classe politique est très corrompue. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'investissement. Les différentes forces politiques, c'est des chefs communautaires qui ont hérité du Liban après la guerre, qui étaient des anciens miliciens, enfin les barons de la guerre si vous voulez, ont fait un espèce de système dans lequel on se partage le gâteau, on se partage l'État et on utilise les dépenses publiques comme moyen de constituer des bases électorales. C'est se refléter par des déficits récurrents et une dette énorme. Donc aujourd'hui, on n'a plus de dollars. Il y a la moitié de la population qui a basculé dans la pauvreté. L'inflation est telle que le pouvoir d'achat, les Libanais se sont appauvris de façon très forte. Mais c'est une crise systémique. Les banques disent, c'est pas notre faute, c'est l'État. L'État ne nous paye plus, l'État ne paye plus sa dette. Donc on n'est plus en mesure de vous rembourser vos dépôts. C'est une crise terrible pour les Libanais. C'est un appauvrissement très violent. Et puis il y a aussi un contexte régional qui n'aide pas du tout.
Alors le contexte régional, c'est le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran qui se joue aussi au Liban, où le Hezbollah, le puissant parti chiite inféodé à Téhéran, est visé par des sanctions financières américaines. J'ai voulu aller dans la banlieue sud de Beyrouth, dans les quartiers contrôlés par le Hezbollah, pour prendre le pouls de la communauté chiite libanaise, pour avoir un peu sa perception de cette crise économique. Mais je n'ai pas eu l'autorisation, et il faut une autorisation pour travailler dans les zones sous influence du Hezbollah. Du coup, je suis maintenant à Nabatieh, c'est la grande ville chiite du sud du Liban, où le Hezbollah se partage le pouvoir avec un autre parti, le mouvement Amal, ancienne milice de la guerre civile. Mais moi, je vais chez quelqu'un, chez un jeune Libanais, qui dénonce la mainmise de ces deux partis sur sa communauté, la communauté chiite, ce qui lui a valu d'ailleurs un passage à tabac.
Bonjour, ça va ?
Oui, merci.
Je m'appelle Mazen, j'ai 29 ans, je suis de Nabatieh. Dans la société qui est gouvernée par les partis chiites, il faut que tu sois membre ou supporter d'un des deux partis, Amal ou Hezbollah, si tu veux accéder à un emploi ou à n'importe quel poste, même hors de tes compétences. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de poste, même dans tes compétences.
C'est donc en utilisant le clientélisme que finalement ces deux parties assoient leur autorité ici.
Aujourd'hui à Nabatieh, il n'y a rien qui s'appelle État. Il y a le Hezbollah et le mouvement Amal. Ce sont eux qui t'assurent des emplois dans l'administration ou dans le privé. Ce sont eux qui t'aident pour ton pain quotidien, à condition que tu sois soumis et que tu ne fasses pas de vagues. Si tu fais allégeance, même sans travailler, toutes ces dépenses seront couvertes par ces partis, mais il faut te taire et suivre la ligne tracée.
Est-ce que dans les zones sous influence ou sous contrôle de Amal et du Hezbollah, la situation économique et sociale est aussi grave, mais on le voit moins parce que ces partis tiennent la population ?
Si tu regardes la réalité, une très grande partie de la population vit dans l'indigence complète. Il y a une très grande partie qui survit parce qu'elle ne peut plus que boire et manger. C'est en train de monter crescendo avec la pauvreté. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la rue, ça ne reflète pas vraiment la réalité de ce qu'il se passe. Quand on parle des sympathisants du Hezbollah ou de Amal, ce sont des gens qui ont faim désormais, comme nous. Bien sûr, ils bénéficient d'un système d'assistance mis en place par ces partis, mais les gens ont faim.
Je crois que vous avez eu quelques ennuis. Est-ce que c'est parce que vous dites à haute voix ce que vous venez de me dire tout simplement ? C'est un problème aujourd'hui ?
Quand tu lèves la voix, une force se dresse contre toi. C'est interdit de lever la voix. On a subi beaucoup de pressions, des pressions publiques. On a été menacés. La voiture a été vandalisée à plusieurs reprises. Les pneus crevés, la tôle rayée ou la mécanique, ils ont menacé la maison, ils ont menacé de la brûler avec ses habitants, ils ont menacé la famille, mon entourage. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. On a été physiquement attaqués. Quand les menaces ont commencé contre moi, c'est parce que j'avais dit les choses clairement dans la rue, en public. J'ai dit, nous n'avons pas peur des voyous, beaucoup de gens disent ça entre eux, mais en petit comité.
Est-ce que je peux poser quelques questions à votre maman ?
Oui.
Est-ce que vous avez peur qu'il arrive quelque chose à votre fils ?
Bien sûr que j'ai peur, mais je fais la différence entre la peur et la prise de position.
Et puis Mazen, je l'ai élevé. On pense la même chose. On a les mêmes causes et principes, mais la peur reste présente, bien sûr.
Ça veut dire que vous faites la même analyse que votre fils de la situation, notamment sur le pouvoir de ces deux partis, Hamas et Hezbollah, sur la communauté chiite.
Les agissements de Hamas ou du Hezbollah sont devenus une culture ancrée dans les familles, transmis par l'éducation. On a oublié certains principes humains, les droits de l'homme, la tolérance, la résolution pacifique des conflits. On s'est perdu.
Dans la communauté chiite, il y a une chape de plomb qui est imposée par le Hezbollah et le parti Hamas. On retrouve les mêmes pratiques clientélistes dans les partis sunnites, chrétiens ou encore druzes, et aussi les mêmes critiques de la part de nombreux Libanais. Je suis revenu à Beyrouth, je suis maintenant place des Martyrs, au centre-ville. Et ici, en octobre dernier, quand les premiers effets de la crise se sont fait sentir, des dizaines de milliers de Libanais se sont rassemblés, spontanément, pacifiquement, pour réclamer le départ de toute la classe politique hérité de la guerre civile. Pendant des semaines, cette place des Martyrs a donc été l'épicentre de cette contestation, avec des dizaines de tentes, de stands pour dormir, manger, se réunir, débattre. Et pour la première fois aussi, cette mobilisation a pris de court les partis traditionnels. Seulement voilà, aujourd'hui, 8 mois plus tard, la place est vide, ou plutôt les voitures ont repris leurs droits. Toutes les installations ont été démantelées par les autorités au nom de la lutte contre le coronavirus. Et c'est un peu comme si cette révolte populaire s'était évaporé en quelques mois. Je vais en discuter avec Tarek Amar, il a 52 ans, très mobilisé en octobre dernier, ici même, place des Martyrs. Il appartient au mouvement Beyrouth Madinati, issu de la société civile, et qui essaye de s'imposer dans le paysage politique confessionnel libanais.
Nous étions dès le premier jour, dès jeudi soir, le 17 octobre 2019. Au début, c'était une manif comme les autres. Et puis ça a déclenché d'une façon extraordinaire. Et c'était la première fois qu'on voit presque dans toutes les villes libanaises, même dans les villages, tous les gens, les riches, les pauvres, de toutes les confessions bien sûr, qui demandaient les mêmes choses. Que tout ce régime soit éliminé et de mettre les dirigeants dans les prisons.
En octobre, la révolution a pris, c'est comme ça que les Libanais l'appellent, la révolution d'octobre. Et puis petit à petit, avec le temps, avec l'arrivée de l'hiver, avec aussi la nomination d'un nouveau gouvernement, on a senti que cette révolution baissait en intensité. Ensuite, il y a eu la crise du Covid. Aujourd'hui, la pauvreté s'est aggravée, la situation économique est encore pire. Où est-ce qu'elle est passée, cette révolution? Elle a été reprise, récupérée, réinstrumentalisée par les pouvoirs politiques? Est-ce qu'elle va revenir? On en est où de cette révolution et de ce mouvement spontané des Libanais qui dépassait justement les différences confessionnelles?
En fait, les Libanais sont été dans les rues pendant des mois et des mois. On a beaucoup des activistes qui ne peuvent plus venir pour manifester, qui n'ont pas d'argent, ils doivent trouver leur pain au quotidien. La difficulté de vie au Liban est tellement pénible qu'on ne peut pas avoir les jeunes chaque jour dans les rues. On a eu un gouvernement dont la forme représentait ce qu'on demandait. En réalité, ce sont des ministres qui sont des consultants du régime. Mais en fond, les Libanais sont toujours avec la révolution. Beaucoup des groupes ont été formés dans la révolution. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle phase dans notre vie de la révolution. C'est une phase de s'organiser, de faire une opposition politique contre ce gouvernement d'une façon beaucoup plus organisée, avec un plan de travail qui est réaliste. Ça va prendre du temps, on le sait, pour faire le changement qu'on aspire.
Est-ce que l'une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui c'est plus difficile de rassembler, c'est pas aussi la pression, voire les intimidations qui sont exercées par certains partis politiques, et je pense en particulier à deux partis politiques qui sont dominants dans la communauté chiite, le Hezbollah et le parti Hamas?
Bien sûr qu'on a eu beaucoup d'intimidation, même physique, même au niveau social, surtout les gens qui vivent dans ces communautés. Et ce qui est pire aujourd'hui, qu'on voit que l'armée libanaise, ou une partie de l'armée libanaise, une partie de la police libanaise, ils essayent d'appeler tous les activistes qui postent même n'importe quelles idées ou opinions sur le social media. Même les journalistes étaient appelés par l'intelligence de l'armée. En fait, c'est vrai que ces intimidations, c'est très dur, mais on continue. C'est pas une seule bataille, c'est un combat qui va durer. Si les gens sont chez eux à la maison, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas prêts un jour à descendre et qu'ils sont avec la révolution.
On a le sentiment aujourd'hui que la crise est devenue tellement grave qu'on ne retrouvera pas un mouvement social pacifique et qu'on risque de basculer dans des choses beaucoup plus dures.
On ne peut pas garantir ce que les Libanais vont faire avec cette situation. Et on voit que cette pauvreté qui touche tous les Libanais va se déclencher quelque part. Il y aura de violence, mais je crois que la plupart des Libanais qui ont vécu plusieurs guerres, ils savent ça veut dire quoi la violence. Ils savent que c'est une chose qui va être contre tous les Libanais. Si on a de violence, c'est eux qui vont gagner. Et les Libanais savent cette histoire.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Tarek Amar l'évoquait, la révolution libanaise réclamait un gouvernement de techniciens pour redresser le pays, indépendant des partis communautaires. Alors elle a eu un nouveau gouvernement, mais derrière lequel on retrouve encore une fois les principaux acteurs du jeu politique libanais. Cela étant dit, l'ampleur de la crise est telle que le Liban n'a pas pu éviter d'appeler à la rescousse le Fonds monétaire international. Les discussions viennent de commencer. Pour clore ce reportage, je vais juste traverser la place des Martyrs pour aller au siège de Kuluna Irada. C'est une organisation qui travaille sur la réforme de l'État libanais et de sa gouvernance. C'est un genre de comité de surveillance de l'État libanais et de ses politiques publiques, avec à sa tête une femme, Ala Bejani.
Le problème principal du Liban est une dette insoutenable, mais cette dette insoutenable vient d'une gouvernance dramatique, d'une corruption énorme et d'un gaspillage au niveau de l'État. Cette dette, elle nous a explosé un petit peu à la figure. Malheureusement, le seul moyen de sortir est de restructurer cette dette et de se tourner vers les institutions internationales pour nous prêter de l'argent encore une fois, mais uniquement après que des réformes sérieuses aient été faites.
Vous dites après, c'est-à-dire que ça fait partie du processus avec le FMI ?
Normalement, le FMI intervient généralement après que le ménage ait été fait à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage quand on a une dette aussi énorme que la nôtre ? On arrive à un chiffre qui est dément de 190 milliards de pertes actuellement.
Alors, ça, c'est de la dette qui ne pourra pas être payé, en fait, c'est ça ?
Absolument, absolument. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On renégocie la dette, ça s'appelle la restructuration de la dette. Et ça se fait couramment. Le problème, c'est comme nous avions emprunté aux banques libanaises, le moment où on dit on veut restructurer la dette souveraine, ça veut dire en réalité que le capital des banques va disparaître. Mais il reste encore un montant qui doit être quelque part payé par quelqu'un. Et c'est là où en général, on va venir dire à ses déposants, vous savez quoi, on va vous faire ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire on va prendre une partie de vos dépôts.
C'est beaucoup moins agréable qu'une coupe de cheveux. En fait, la banque va aller se servir dans les dépôts de ses clients.
Pour éponger les pertes, en fait. Et c'est là où, en général, quand on fait cette distribution de pertes, qu'on essaye de ménager les petits déposants qui, en réalité, dans un pays où il n'y a pas de système de pension, faisaient de leurs dépôts leur propre garantie de pension. C'est pour ça qu'en général, on dit on va regarder les dépôts de plus de 300 000 dollars, on se met une sorte de limite. En Grèce, elle était autour de 60 000 dollars. Et donc cette distribution de pertes, qui est nécessairement douloureuse, doit se faire d'une manière équitable. Et ce débat n'a même pas encore commencé, puisque notre secteur bancaire, bien entendu, a du mal à reconnaître qu'il a virtuellement fait faillite. Et en distribuant les pertes, il faut qu'on fasse quand même le compte des plus pauvres. Donc pour revenir au FMI, avant que de même pouvoir envisager de dire au FMI ou à d'autres organisations internationales de venir nous aider, nous devons d'abord avoir restructuré la dette, nous devons ensuite avoir restructuré le secteur bancaire. Une autre chose que le FMI demande, c'est avoir un taux de change flottant et non pas un taux de change qui est fixe comme le Liban, ce qui est absolument ridicule. Mais ça, ça veut dire encore une fois que ceux qui vont en payer le prix sont ceux qui sont payés en livres libanaises avec une monnaie terriblement dévaluée. Donc on rentre dans un tunnel très très pénible et il faut que nous ayons fait tout cela avant même de pouvoir dire au FMI « Est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent, s'il vous plaît ?»
C'est réalisable, franchement, ce que vous venez de décrire comme défi ?
Malheureusement, nous sommes très sceptiques parce qu'il y a un élément essentiel qui manque, pour moi beaucoup plus grave, qui est la crise de confiance. Nous avons un peuple, des citoyens et des citoyennes qui n'ont aucune confiance dans ceux qui les représentent. À mon avis, ça doit passer par un changement de la classe politique et ça doit passer par un nouveau pacte social. Est-ce que les forces qui sont au pouvoir maintenant vont comprendre qu'ils sont dans une fin d'ère et qu'il y a une réelle rupture sociale? Je ne le pense pas. Donc malheureusement, la violence risque, avec la faim, avec la pauvreté, risque d'être une des portes de sortie, j'espère très brève, avant de pouvoir passer à autre chose.
Le Liban au bord du gouffre, un reportage d'Aurélien Colli.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Karim Bitar, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, est l'invité de Grand Reportage. Vous avez entendu Alaa Bejani à l'instant, Karim Bitar. Est-ce que vous redoutez vous-même un basculement du Liban dans la violence ?
Si on regarde l'histoire du Liban, on se rend compte en effet que la guerre qui a débuté en 1975, on a beaucoup évoqué les causes géopolitiques de cette guerre, mais l'une des causes sous-jacentes était aussi l'approfondissement des inégalités sociales et la disparition progressive des classes moyennes qui avaient débuté en fait avant la guerre. On pense que cette disparition était une conséquence de la guerre de 1975, c'était aussi une cause. Donc, en effet, il est à craindre que cette nouvelle phase de la révolution qui pourrait commencer ne soit pas aussi bon enfant que la première phase, celle du 17 octobre dernier. La première phase de la révolution avait parfois des aspects de mai 68 où on voyait, comme on l'a vu dans le reportage d'Aurélien Colli, un aspect quelque peu sympathique où il y avait à la fois toutes les classes sociales, toutes les communautés communier ensemble, exiger un nouveau pacte social, le départ des leaders corrompus. Aujourd'hui, on pourrait voir un basculement dans plus de violence, une certaine discorde confessionnelle, des tentatives de récupération de cette révolution par les partis communautaires qui craignent de perdre leurs privilèges. Donc nous n'en sommes pas encore là, mais il faut en effet être extrêmement prudent, car un ventre affamé n'a point d'oreille. Et aujourd'hui, les chiffres de la Banque mondiale nous disent que dans moins de 2-3 mois, peut-être près de 50 à 60% de la population libanaise va tomber en dessous du seuil de pauvreté.
Alors, le souvenir de la guerre civile n'est pas si lointain. Est-ce que ça peut servir de garde-fou quand même pour le Liban ?
Oui, je crois qu'il faut l'espérer. Les Libanais ont été quelque peu immunisés. Ils ne veulent plus servir de chair à canon. Ils ne veulent plus être manipulés par des puissances étrangères. Ils savent que le prix à payer pour des guerres par procuration menées par des puissances étrangères sur le territoire libanais serait trop lourd. Par contre, c'est un pays qui n'a toujours pas d'immunité. Il est toujours très, très aisé pour les puissances régionales de manipuler tel ou tel parti communautaire libanais pour parvenir à leur fin. Et le système politique libanais étant ce qu'il est, un système marqué par le communautarisme, par le clientélisme, comme on l'a vu dans le reportage, particulièrement facile à manipuler par toutes les parties étrangères qui ont des intérêts géopolitiques. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans une guerre, dans un bras de fer américano-iranien, iraniens et dans une guerre froide régionale saoudo-iranienne qui se répercute très négativement sur le territoire libanais. Et cette crise économique dont on parle, l'une de ces raisons qui l'ont accélérée, qui ne l'ont pas causée, qui l'ont accélérée, c'est la politique de pression maximale de l'administration Trump contre Téhéran qui ont conduit quelque peu les banques libanaises à vouloir mettre la pression et purger certains comptes, etc., notamment pour éviter que le Hezbollah ne puisse se servir du système bancaire libanais. Donc nous sommes au confluent d'une crise interne qui est causée par la cupidité d'un système bancaire libanais, d'une crise régionale marquée encore par les conséquences de la guerre d'Irak, l'approfondissement du clivage irano-saoudien, et d'un bras de fer international avec cette détermination de l'administration Trump à mettre au pas le régime de Téhéran. Et le Liban est un peu le maillon faible qui pourrait, encore une fois, payer les pots cassés.
Vous parliez du Hezbollah. Est-ce qu'il peut gagner encore en influence dans cette période très mouvementée ou est-ce qu'au contraire, il a beaucoup à perdre ?
Je crains que le Hezbollah, étant le parti le mieux organisé, le seul parti encore armé au Liban, puisse tirer son épingle du jeu. Dans une période de troubles, les partis qui s'en sortent le mieux sont en général ceux qui ont une base particulièrement soudée. Donc le Hezbollah a l'allégeance d'au moins 80% de la communauté chiite libanaise. Il a toujours un soutien très marqué du régime de Téhéran. Pour l'Iran, le Hezbollah, c'est un peu le joyau de la couronne. Donc tous les autres partis sont particulièrement affaiblis. Donc quand bien même la base du Hezbollah va souffrir économiquement comme tous les autres Libanais, cet affaiblissement ne sera que relatif et le Hezbollah pourrait s'en sortir mieux que les autres partis libanais. Donc paradoxalement, cette politique de pression qu'ont appliquée les Américains sur les banques libanaises a affaibli l'économie libanaise tout entière sans affaiblir le Hezbollah, car le Hezbollah n'a pas besoin des circuits bancaires classiques, il a ses propres réseaux parallèles, ils ne vont pas aller déposer leur argent sur des banques ayant pignon sur rue, ils ont toute une économie underground, toute une économie parallèle, et donc ce sont peut-être eux qui ont le moins souffert de cette politique américaine visant à mettre au pas, à surveiller de très près l'économie libanaise.
Et ce système confessionnel et clientéliste, est-ce que vous pensez que le Liban peut vraiment en sortir ?
L'une des bonnes nouvelles de ces derniers mois, c'est qu'il y a un rejet très très vaste de la jeunesse libanaise s'est enfin réveillée. Un siècle après la naissance du Grand Liban, c'était le 1er septembre 1920, que le général Gouraud, le haut commissaire français, a réuni autour de lui le patriarche maronite et le mufti sunnite pour proclamer la naissance du Grand Liban sur une base communautaire où on avait un représentant de la communauté chrétienne et un représentant de la communauté sunnite qui faisait une sorte d'unité nationale par le haut sur la base d'un partage des postes en quelque sorte. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de Libanais qui réclame enfin une citoyenneté, une unité nationale par le bas, un lien direct entre le citoyen et l'État, qui veulent mettre un terme à ce communautarisme débridé, à ce régime clientéliste de partage des postes, de partage des dépouilles, à ce spoil system à la libanaise. Donc c'est une des bonnes nouvelles, on souhaite tourner la page, mais reste à savoir quels seront les mécanismes pour parvenir à ce Liban décommunautarisé, quels seront les contours de ce nouveau Liban, notamment à l'ombre de ces conflits régionaux, à l'ombre d'un Moyen-Orient qui est plus communautarisé que jamais. Donc le chemin sera long, mais en tout cas, il y a toute une nouvelle génération de Libanais qui n'est plus dupe et qui ne souhaite plus qu'on mélange allègrement le politique et le religieux, le spirituel et le temporel.
Mais Karim Bitar, cette révolution qui a débuté en octobre n'est pas du tout arrivée à son terme. Et quand on écoute le reportage d'Aurélien, on se dit que les Libanais aujourd'hui ont des préoccupations plus basiques, c'est comment se nourrir, comment subvenir à ses besoins primaires. Dans ce contexte, vous croyez vraiment à une poursuite de ce mouvement ?
Vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience que ces deux questions sont liées. Il y a une prise de conscience comme quoi on ne peut pas lutter contre la corruption à l'ombre de ce système communautariste et clientéliste. Le gros problème du Liban, c'est que dès que quelqu'un est accusé de corruption, il va se réfugier derrière sa communauté religieuse en disant « je suis accusé parce que je suis sunnite ou parce que je suis maronite ou parce que je suis chiite ». Donc aujourd'hui, il y a de très vastes franges de l'opinion publique libanaise qui exigent la création d'un État civil qui est la seule garantie de pouvoir évoluer vers un système où on peut véritablement réclamer des comptes. La redevabilité passe par l'abolition de ce système communautaire. Et il y a aujourd'hui un grand nombre d'associations civiles la semaine dernière qui ont lancé une pétition pour réclamer de mettre un terme à ce système communautaire. Donc je crois que les deux choses sont liées, même si vous avez raison, aux yeux de la population civile qu'on interroge dans la rue, la priorité absolue, c'est de pouvoir se nourrir désormais et de pouvoir joindre les deux bouts. Mais dans l'idéal, on ne pourra évoluer vers un système économique et social juste que si on abolit définitivement ce système communautariste qui a prouvé en un siècle sa faillite à la fois morale et pratique.
Et l'actuel gouvernement, comment est-ce qu'il s'en sort ? Il affirme qu'il est engagé dans la lutte contre la corruption, ce ne sont que des mots pour l'instant ?
On a tendance à considérer que ce gouvernement est en effet prisonnier de quelques vagues promesses et qu'il n'a pas réalisé grand-chose, mais il faudrait quand même résister à la tentation de faire porter à ce gouvernement la culpabilité de 30 années de gabegie, d'incompétence, de corruption. C'est un gouvernement qui a pris le pouvoir il y a à peine 6 mois, qui est composé, il est vrai, de quelques figures indépendantes, mais aussi d'une vingtaine de personnalités qui ont été nommées par les partis communautaires traditionnels. Donc ce n'est pas le gouvernement indépendant formé de spécialistes, d'experts que la révolution libanaise avait demandé. Mais pour autant, il ne faut pas accepter la rhétorique de la vieille classe politique traditionnelle qui veut faire de ce gouvernement le bouc émissaire et revenir par la fenêtre alors qu'ils avaient été chassés par la porte. Donc ce gouvernement a relativement bien géré la crise du coronavirus, peut-être mieux que certains gouvernements occidentaux d'ailleurs. C'est l'un des premiers pays qui avait mis en place le confinement. Le nombre de victimes au Liban est relativement très réduit. Ce gouvernement est l'un des premiers qui a établi un diagnostic de la crise économique, ce qui n'avait pas été fait par le gouvernement précédent. Donc on sait aujourd'hui quel est l'état des lieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de mesures concrètes qui ont été prises. Donc je dirais que c'est vrai qu'on est à ce stade encore dans un entre-deux, que la note est passable. Mais si on compare ce gouvernement à ceux qui l'ont précédé, il ne faut pas trop lui jeter la pierre à ce stade, surtout qu'il n'y a aucune autre alternative qui est encore apparue.
Aurélien Colli, dans votre reportage, on entend bien les difficultés auxquelles sont confrontés les Libanais aujourd'hui, avec des personnes qui s'en sortaient très bien et qui ont glissé dans la pauvreté. Ça s'est passé très vite.
Oui, vous savez, moi je me souviens de la crise qu'avait vécue la Grèce en 2008. On l'avait suivie par l'intermédiaire des médias, on avait compris la gravité de la situation, mais ça restait assez virtuel. Ce qui est très frappant en étant ici au Liban, c'est que depuis le mois de septembre, jour après jour, semaine après semaine, on voit très concrètement dans la vie quotidienne ce que sont les effets d'une crise économique, financière, bancaire d'une telle ampleur. Depuis le mois de septembre, il y a eu d'abord des restrictions sur les retraits en dollars, et puis on a commencé à voir apparaître des queues dans les banques, et puis petit à petit, tout ce qui était annoncé par les spécialistes s'est déroulé, s'est mis en place. À partir du mois de janvier, on a commencé à voir les prix à la consommation augmenter, flamber, et finalement, petit à petit, en l'espace d'un an, on a aujourd'hui un Liban qui a beaucoup changé par rapport à celui que moi je voyais encore en septembre dernier. On a un climat qui pèse, donc des Libanais qui vivent au quotidien ces difficultés. On a une tension qui est palpable. Et puis on a une pauvreté qu'on sent et qui ne touche pas que les gens qui sont déjà démunis, dans des villes qui sont déjà difficiles, comme Tripoli, mais effectivement une classe moyenne, même une classe moyenne supérieure, dans des quartiers plutôt aisés, où là les gens n'arrivent plus à avoir accès à leurs économies, à leur argent de côté. Les restaurateurs n'arrivent plus à rouvrir leur restaurant après le Covid parce que les prix des fournisseurs sont trop élevés, parce que les clients n'ont plus de pouvoir d'achat. Et donc on a vu en un an réellement le visage du Liban changer. Et moi j'ai découvert en fait ce que c'était pour un pays que de rentrer aussi violemment, petit à petit et aussi rapidement quand même, dans une crise aussi profonde.
Karim Bitar, si le Liban obtient l'aide du FMI, il va certainement se voir imposer des réformes pour lesquelles il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. En quoi va consister le plan de relance de l'économie ?
Alors, comme à l'ordinaire, le FMI risque d'imposer un plan d'austérité dont le Liban, aujourd'hui, aurait bien fait l'économie, du moins les classes populaires libanaises. Cela dit, il n'y a pas ce rejet massif qu'on aurait pu attendre, car les Libanais ont le sentiment que ce plan sera certes douloureux, mais qu'il sera pour le moins organisé, alors qu'aujourd'hui, ils souffrent de politiques qui les touchent également très violemment, qui sont aussi très douloureuses, mais qui se font un peu à la tête du client. Ceux qui sont pistonnés, bien connectés politiquement, souffrent moins que les autres. Donc ils espèrent avoir du moins un sentiment de clarté, savoir quand est-ce qu'ils pourront enfin voir leur argent débloqué, quand est-ce que vont se faire enfin ces réformes politiques et économiques qui nous sont promises depuis longtemps, à commencer par la réforme du secteur de l'électricité, qui coûte au budget de l'État libanais plus de 2 milliards de dollars chaque année. Donc qui est la cause principale de ce déficit énorme et de cette dette publique qui a dépassé les 150% du PIB libanais. Par ailleurs, le FMI devrait exiger une réduction du nombre de fonctionnaires, ce qui sera quelque chose de particulièrement difficile à faire passer auprès des partis politiques qui ont souvent casé leurs propres affidés au sein des administrations de l'État, qui sont devenues certaines d'entre elles particulièrement pléthoriques. Et il faudra également accepter ce taux de change fluctuant auquel le Liban n'est plus habitué depuis les années 90. Mais au final, cette thérapie douloureuse pourrait éventuellement créer un électrochoc dont les Libanais se seraient bien passés. Mais ils aspirent aujourd'hui à voir surtout un nouveau pacte social et économique, à sortir de cette économie de rente. On s'était focalisé exclusivement dans ces 30 dernières années sur la spéculation immobilière, sur le tourisme, sur les services, et on avait délaissé l'agriculture, l'industrie, tous les secteurs productifs. Donc, idéalement, s'il n'y a pas d'alternative à cette intervention du FMI, il faudrait que les Libanais s'en servent pour réorienter, reconstruire une économie qui ne soit plus une économie de rente, mais qui soit une économie productive, qui soit tenable sur la durée, et qu'on sorte enfin de ce cercle vicieux de cette économie de rente qui nous a mené droit dans le mur.
Et donc, sur quelles ressources est-ce que le Liban peut s'appuyer pour se relever ?
D'abord sur ses ressources humaines. Le Liban a énormément de ressources humaines, une population extrêmement qualifiée. On a vu dans le reportage d'Aurélien Colli, cet orthodontiste qui se retrouve aujourd'hui avec des patients ne pouvant plus, même des classes moyennes supérieures, ne pouvant plus assurer, payer leurs frais. Nous avons énormément de médecins, d'ingénieurs, d'informaticiens dont on ne s'est pas assez servi. Donc il faut aujourd'hui investir dans ces nouveaux secteurs, l'intelligence artificielle, l'économie du savoir, le high-tech, ne plus se reposer uniquement sur l'ancienne économie et reconstruire un Liban nouveau, briser les monopoles. Donc il faut véritablement libérer les énergies, permettre à de jeunes entrepreneurs de montrer toutes les ressources dont ils disposent, les ressources, l'énergie, les ressources intellectuelles, et de briser ce lien entre les oligarques, la classe politique et la vie économique. On a véritablement des liens incestueux entre une caste politique corrompue et une clique économique composée de également quelques personnes qui y a causé véritablement cette crise économique. Donc ceux-là même qui aujourd'hui prétendent défendre l'économie libérale sont en fait en train de défendre un système qui est profondément illibéral. C'est une oligarchie qui est en train de défendre ses propres intérêts au détriment des individus, des forces vives de ce pays. Et aujourd'hui, il faut libérer ces forces vives qui sont présentes dans toutes les communautés libanaises, du nord au sud. Des Libanais avec de très modestes moyens seraient capables de fonder leurs propres entreprises, de produire, d'exporter dans les secteurs agricoles, de créer des petites industries. Et on ne peut plus exclusivement faire de la spéculation immobilière et prétendre faire du tourisme et être la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. Il faut revenir à la base, revenir aux sources en quelque sorte, et reconstruire à partir de zéro une économie qui soit véritablement au service du peuple et non pas au service d'une toute petite oligarchie financière et politique.
Merci Karim Bitar. Le Liban au bord du gouffre, le grand reportage de cette semaine était signé Aurélien Colli, réalisation Annie Bro, avec Anthony Thomasson à la technique. Merci à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France et vous pouvez, comme chaque semaine, réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.